J'ai centré ce très 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 modeste travail, j'avoue, autour essentiellement. Alors, à l'origine, c'était effectivement prévu pour faire une espèce de compte-rendu de notre voyage pèlerinage ou pèlerinage-voyage. Centrer ça autour donc de Notre-Dame de Częstochowa, donc en Pologne, et à l'occasion, je parlerai un petit peu donc de l'histoire de la Pologne parce que les deux sont intimement mêlés. Et ce qu'il y a d'original, effectivement, en parlant donc de la Vierge de Jasnagora, de Częstochowa, c'est effectivement ce lien très intime donc avec l'histoire de la Pologne, qui a fait du sanctuaire au cours du temps le cœur spirituel du pays, parce qu'on peut dire véritablement que Częstochowa, c'est le cœur spirituel de la Pologne, en déplaçant d'ailleurs depuis des siècles des foules de plus en plus importantes, en les déplaçant à pied et par d'autres moyens de locomotion jusqu'à nos jours, et en voyant donc chaque année donc défiler une marée humaine polonaise donc dans ce sanctuaire. Ce qui est d'ailleurs le caractère original de Częstochowa par rapport à d'autres lieux de dévotion, et notamment par rapport à d'autres lieux de dévotion mariale, c'est justement ce caractère national. C'est d'abord, effectivement, et avant tout, un sanctuaire national, un sanctuaire polonais, avant d'être un lieu de rassemblement de pèlerins internationaux. C'est vrai que sous cet angle-là, Częstochowa présente un caractère nettement différent avec ce que peut être Lourdes, par exemple, ou même ce que peut être Fatima. Il y a véritablement un caractère polonais qui ressort jusqu'à aujourd'hui, donc, dans l'histoire de ce sanctuaire. Et aussi, j'axerai cette très modeste exposé donc, autour de l'étude chronologique du sanctuaire, tout simplement parce que l'étude chronologique de l'histoire du sanctuaire permet de parler aussi de l'histoire de la Pologne, les deux étant donc, encore une fois, très, très intimement mêlés. L'histoire du sanctuaire, elle commence en 1382, et c'est d'ailleurs remarquable, au moment pratiquement où la Pologne devient un des grands États européens. Jusqu'au XIVe siècle, la Pologne est restée quelque chose de très marginal en Europe. C'est un État qui a fait peu parler de lui, qui commence tout juste à s'organiser. Et c'est pratiquement au moment où elle entre je dirais, dans le concert des grandes puissances européennes, eh bien, que démarre aussi l'histoire donc de Częstochowa. Alors, cette histoire, elle commence en 1382, précisément, au moment où un prince, le prince Ladislas d'Opole, donc, qui est situé dans le sud de la Pologne, confie une colline qui s'appelle Jasnagora, c'est-à-dire la colline lumineuse, un petit tertre modeste dans le sud de la Pologne, dans la région aux confins donc de la Silésie et de la Galicie, donc deux régions dans le sud de la Pologne, aux moines pauliniens de l'ordre de Saint-Paul-Ermite, un ordre qui avait été fondé un siècle plus tôt donc en Hongrie. Et ce prince confie cette colline de Jasnagora donc à ses moines tout simplement parce que il l'a ramenée de la ville ukrainienne de Belz au cours d'une guerre contre les Tartares qui occupaient encore cette zone. Il a ramené donc de la ville de Belz en récompense donc un tableau qui est un tableau miraculeux, qui était déjà vénéré en Ukraine comme étant donc un tableau miraculeux. Un tableau, je dirais, dont l'histoire nous est rapportée par deux traditions différentes. L'une voudrait que ce tableau soit peint, et ce tableau c'est évidemment donc le tableau de la Très Sainte Vierge, la Vierge Noire, un tableau peint par Saint-Luc sur une planche de la maison de la Sainte Famille. Ça, c'est la première tradition. Cette image, cette icône, aurait été conservée à Constantinople pendant des siècles, puis cédée donc à un prince russe, à un prince du sud de la Russie, d'Ukraine, tout simplement en gage d'amitié et en gage donc de traité. Et l'autre tradition veut effectivement que le tableau, même s'il a une histoire vénérable, ait été peint par un artiste ukrainien inconnu. Ah, donc il y a aujourd'hui un peu controverse autour de l'origine. Je dirais que plus on est moderniste, plus on est tenant de la deuxième thèse, et je dirais que plus on a de la vénération pour la Vierge Noire, plus on est tenant donc de la première thèse, et c'est le cas notamment des Polonais. Donc en 1382, dès la fondation donc de ce monastère de Jasnagora, début des pèlerinages, d'abord locaux, effectivement, puis des dons qui affluent et qui permettent très progressivement donc d'enrichir cette chapelle, parce qu'au départ c'est une très modeste chapelle qui est construite en bois. L'Est de l'Europe, je dirais, recèle relativement peu de pierres de taille. On construit énormément, il y a énormément de forêts, on construit énormément en bois. Et donc cette modeste chapelle de bois qui abrite donc cette icône miraculeuse est très rapidement donc remplacée par un édifice en pierre et voit donc le début d'un pèlerinage. Ça va d'ailleurs attirer des ennuis donc à ce sanctuaire, puisqu'en avril 1430, ce sanctuaire de Jasnagora sera attaqué par une bande de pillards, venus d'ailleurs des environs, Et c'est en 1430 que le tableau sera profané, c'est-à-dire qu'un des pillards, effectivement, va donner un coup d'épée donc sur ce tableau qui sera brisé. Et bon, évidemment, le sacrilège est très vivement ressenti déjà à l'époque. Et il est d'autant plus ressenti que le travail de restauration qui s'effectue à Cracovie, qui est la capitale du royaume de Pologne, à l'instigation du roi Ladislas Jagellon, en même temps grand-duc de Lituanie, qui est le premier grand souverain de la Pologne, cette restauration donc s'avère relativement difficile. Si le roi de Pologne prend lui-même en charge la restauration donc de cette icône, c'est déjà pour montrer que elle avait effectivement donc un retentissement, elle jouait déjà un rôle relativement important dans la spiritualité des Polonais. Et cette restauration donc pose problème parce que les deux procédés, c'est-à-dire les procédés connus au Moyen Âge et les procédés originaux donc de peinture sur bois, peinture à la cire, je dirais ne se marient pas et il faudra pratiquement recréer pratiquement la totalité du tableau, il faudra pratiquement gratter le tableau en totalité et le repeindre en soulignant d'ailleurs la blessure qui avait été infligée. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, sur donc les images donc de la Vierge de Yasnagora, on a la trace de cette profanation qui a été voulu, c'est-à-dire au moment de la restauration, on a voulu conserver la marque de cette profanation. Et bien entendu, le résultat, c'est donc, je dirais, de renforcer la renommée du sanctuaire, qui d'ailleurs s'agrandit, et bien entendu, là aussi, multiplication des pèlerinages en réparation, et multiplication qui bon, témoigne de cette ferveur donc de la Pologne pour cette Vierge Noire de Jasnagora, d'autant qu'effectivement, les miracles se multiplient. Si le lieu devient un sanctuaire si prisé, si ça devient un but de pèlerinage aussi prisé, c'est parce que les miracles se multiplient, notamment donc des guérisons miraculeuses qui s'effectuent, qui se réalisent, qui interviennent donc dans ce sanctuaire à partir de ce moment-là. Deuxième date, 1466, là encore une date un petit peu tragique, puisque cette fois-ci ce sont les troupes du roi de Bohême qui attaquent le sanctuaire, et la décision sera prise de le fortifier. Face donc à la menace répétée, les rois de Pologne décident effectivement donc de faire du sanctuaire de Yasnagora, donc en même temps de l'entourer d'un mur d'enceinte, donc pour le protéger et d'en faire une forteresse sanctuaire en quelque sorte, puisque la région est relativement peu sûre. Pendant plus d'un siècle, les choses demeurent en l'état, c'est-à-dire que Yasnagora, Częstochowa se développe, les Poliniens augmentent en nombre. La ferveur augmente aussi, ce qui se traduit par des dons. Jasnagora devient donc un des grands monastères de Pologne. Ça devient une puissance foncière aussi parce que beaucoup apportent des terres, notamment beaucoup parmi la noblesse polonaise apportent donc des terres au sanctuaire. Et puis surtout, enrichissement du sanctuaire par les dons des fidèles, et notamment les dons en métaux précieux, en bijoux, qui vont permettre très progressivement de confectionner tout un tas de parures pour la Vierge. La Vierge de Jasnagora est célèbre effectivement pour être, à l'occasion des grandes fêtes, parée d'un certain nombre de manteaux précieux, pratiquement tous réalisés donc à partir donc de bijoux donnés par les pèlerins. Il était clair que ce trésor qui est en train de se constituer à Yasnagora alimente aussi les convoitises donc de ceux qui sont animés d'intentions nettement moins pures et il ne manque pas dans la région. La deuxième grande étape dans l'histoire de Yasnagora intervient en 1655 et on peut dire que ce sera le démarrage, le début de sa non seulement de sa renommée dans l'ensemble du pays, dans l'ensemble de la Pologne, mais en même temps c'est le moment où Yasnagora devient le symbole de l'identité polonaise et de l'unité polonaise. Et en effet, en 1655, dans le cadre des luttes de succession, la couronne de Pologne change à plusieurs reprises de main, et notamment la Pologne est soumise à une invasion suédoise, des Suédois qui sont évidemment donc des luthériens pour l'essentiel, qui commettent un certain nombre donc de déprédations à l'intérieur du pays, notamment à l'égard donc des biens ecclésiastiques, des églises, pas mal de sacrilèges. Et il faut dire qu'à ce moment-là, la noblesse polonaise, qui est très divisée entre plusieurs factions, entre plusieurs prétendants au trône, refuse de combattre. Et en 1655, le sanctuaire de Jasnagora est pour la troisième fois de son histoire attaqué, mais cette fois par un parti d'à peu près 3 000 Suédois. Et il n'est défendu tout simplement par 70 moines, qui ont à leur tête le prieur de Jasnagora, l'abbé Augustin Kordeki, qui aujourd'hui donc bénéficie d'un prestige relativement important donc en Pologne, par 20 nobles et 170 soldats. Donc bien piètre garnison, effectivement, qui défend le sanctuaire. L'assaut, évidemment, est donné, il est repoussé. Les moines, d'ailleurs, pour les circonstances, sont au rempart, prennent part au combat, évidemment, et après 40 jours de siège, cette très modeste garnison, eh bien, parvient à mettre les Suédois en fuite. Les Suédois, effectivement, constatant leur impuissance, en dépit donc je dirais, de la supériorité numérique, leur impuissance à pénétrer dans le sanctuaire, eh bien, lèvent le siège et le sanctuaire donc demeure inviolé. Cette victoire qui apparaît littéralement comme miraculeuse, parce qu'il était clair que la très modeste garnison, si on tenait compte des forces en présence et si on tenait compte de la modestie quand même du rempart de Yasnagora, il est clair qu'elle est due quand même à une intervention tout à fait, je dirais, céleste. Eh bien, cette victoire a un retentissement tout à fait énorme et elle marque un tournant, puisqu'à partir de ce moment-là, les Polonais se liguent pour soutenir effectivement le roi Sigismond et contre les Suédois, et c'est le début de la résistance nationale. C'est-à-dire que cet épisode marque le début du sursaut de la Pologne face à l'invasion suédoise, et les Polonais donc estiment qu'ils doivent reprendre en main donc leur destin, et on a donc des armées qui se lèvent entièrement par région, effectivement, pour repousser l'envahisseur à partir de ce moment-là. En souvenir de cette victoire miraculeuse, en souvenir aussi de ce que cette victoire a permis, c'est-à-dire le sursaut national de la Pologne, le 1er avril 1656, le royaume de Pologne sera consacré à Marie par le roi Jean Casimir, ce qui est la première consécration donc officielle du royaume et qui fait donc de la Très Sainte Vierge et notamment donc de la Vierge de Yasnagora la protectrice donc officielle de la Pologne. Le roi Jean Casimir prononce donc cette consécration à Cracovie et le 26 août, il vient donc en personne, accompagné d'une bonne partie de la noblesse polonaise, donc consacrer sa personne, son royaume donc à la Vierge, lui rendre hommage. Et depuis le 26 août, donc, est la fête de Notre-Dame de Jasnagora, la fête de Notre-Dame de Częstochowa, qui est célébrée toujours en grande pompe donc par les Polonais. Cette consécration, qui est reprise par les souverains successifs de Pologne, et notamment par le roi Jean Sobieski. Il faut savoir qu'avant d'aller écraser les Turcs devant Vienne en 1683, victoire qui a d'ailleurs été commémorée cette semaine par la fête du Saint-Nom de Marie, en souvenir donc de cette victoire, Jean Sobieski est allé évidemment prier donc, au sanctuaire de Yasnagora. C'est là qu'il avait donné rendez-vous donc à ses troupes. C'est là effectivement donc qu'il est de là qu'il est parti effectivement pour cette victoire. Cette consécration s'appuie sur un mouvement populaire dans toute l'Europe de l'Est qui voit la piété mariale se développer. Tout le XVIIIe siècle verra donc la piété mariale de plus en plus présente en Pologne. Et ce développement, le retentissement, l'accroissement donc du prestige de Notre-Dame de Yasnagora se traduit en 1717 par le couronnement de la Vierge. Après accord donc du pape, après consultation, eh bien, la Vierge de Yasnagora est couronnée solennellement. Donc, ce début du XVIIIe siècle, alors évidemment en présence d'une foule absolument gigantesque, évidemment pour l'époque, c'est-à-dire il y a à peu près 150 000 personnes pour le couronnement, donc la Vierge de Yasnagora, des gens qui sont venus évidemment pour l'essentiel donc à pied, donc de toutes les régions avoisinantes. Ça marque le début des grands pèlerinages. C'est aussi une date relativement importante parce que désormais, Yasnagora donc devient le lieu de pèlerinage organisé donc pour toute la Pologne. On n'y part plus uniquement, je dirais, à titre individuel, mais on y part en ville. Ce sont des pèlerinages constitués de toutes les villes de la Pologne qui se mettent en place à partir de ce moment-là. Et notamment, c'est le grand pèlerinage de Varsovie. Varsovie qui est quand même distante de 400 km. C'est pas un mince pèlerinage que d'aller effectivement à pied de Varsovie à Yasnagora. C'est encore, je dirais, un bien plus grand effort quand on vient donc depuis les rives de la Baltique. Et à partir de ce moment-là, donc, se mettent en place des pèlerinages à partir des différentes villes de Pologne qui rassemblent évidemment des foules tout à fait considérables. Cette période où le sanctuaire voit sa renommée s'accroître coïncide d'ailleurs avec une période tragique pour l'histoire de la Pologne. C'est-à-dire que le XVIIIe siècle voit l'affaiblissement de la Pologne. La Pologne a été pendant 3 siècles un des États d'Europe les plus puissants, mais je dirais l'accroissement face à des voisins qui sont de plus en plus gourmands, notamment à l'est la Russie, réorganisée notamment sous Pierre le Grand, à l'ouest la Prusse, qui elle aussi donc augmente en puissance à la suite des guerres du début du XVIIIe siècle. eh bien, la Pologne, je dirais, ne parvient pas en quelque sorte à réaliser les mesures nécessaires à sa survie. Notamment, la monarchie polonaise est élective, ce qui fait qu'il n'y a aucune continuité dans l'action dynastique. La noblesse joue un rôle considérable, mais elle est très divisée entre différentes factions, certaines étant pro-allemandes, d'autres plutôt pro-russes. Il y a aussi ce qu'on appelle un parti national, un parti patriote. Et le résultat de cette évolution, de cet affaiblissement, c'est que très rapidement, elle n'a plus que des souverains étrangers. Entre 1694 et 1763, ce sont deux rois saxons qui se succèdent sur le trône de Pologne. Et puis en 1763, c'est un roi polonais, mais qui est très pro-russe, qui est élu par la Diète de Cracovie, le roi Stanislas Poniatowski. Et très rapidement, donc, une partie des Polonais, une partie de la noblesse polonaise, rejetant l'orientation qu'elle juge justement trop favorable aux intérêts de la Russie, c'est-à-dire que quelque part le roi est en train de vassaliser son royaume donc enfin, à la Russie, eh bien, on a donc un certain nombre de guerres civiles. En 1768, se forme une confédération donc d'une partie de la noblesse polonaise, confédération de Bar, qui s'élève justement contre le pouvoir des Russes à l'intérieur du pays, qui intervient et qui assure justement la défense du sanctuaire. Malheureusement, les troupes russes, qui ont été appelées par le roi de Pologne, donc, finissent par mettre fin à cette insurrection. Et le résultat, en 1772, et vous l'avez d'ailleurs pour partie sur les cartes, en 1772, c'est le premier partage de la Pologne. Les voisins donc du pays se partagent, annexent un certain nombre de territoires. La Prusse s'empare d'une partie du pays, la Russie s'empare d'une partie du pays la plus à l'est, et surtout l'Autriche. S'empare de toute la Galicie, de tout le sud du pays, qui est une des régions donc les plus prospères. Et vous voyez qu'à cette date, donc le sanctuaire de Częstochowa se retrouve pratiquement donc à la frontière entre la Prusse et ce qui reste du royaume de Pologne. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, le sanctuaire, en quelque sorte, devient un lieu de pèlerinage pour la délivrance de la Pologne, parce que l'évolution ne s'arrête pas là. En 1793, le pays subit un nouveau partage, les ambitions de ses voisins n'étant pas épuisées. La Pologne ne reste plus que virtuellement indépendante, ne reste plus que la partie centrale. Częstochowa, à partir de ce moment-là, se trouve dans le domaine qui revient à la Prusse. Et puis en 1795, vous pouvez le constater, la Pologne disparaît. En 1795, il n'y a plus d'État polonais, le royaume de Pologne donc a totalement vécu, partagé qu'il est donc entre ses trois grands voisins. Et c'est vraiment à ce moment-là que Yasnagora devient le symbole de la future liberté du pays, c'est-à-dire qu'on se rend en pèlerinage auprès de la Vierge Noire pour demander tout simplement qu'un jour intervienne la liberté donc pour la Pologne, la libération du pays et la restauration donc du pays. Il y a une première étape qui est la création du Grand-Duché de Varsovie entre 1807 et 1815, à l'instigation de Napoléon. Pendant quelques années, donc, la Pologne, ou une partie de la Pologne, retrouve un semblant d'existence. Mais en 1815, donc, à nouveau, la Pologne disparaît et l'essentiel tombe dans le domaine de la Russie. L'Autriche conserve la Galicie. La Prusse cède quelques territoires à la Russie, qui annexe l'essentiel pour faire un soi-disant royaume de Pologne, mais qui en fait n'a d'existence que tout à fait théorique. Et pour bien montrer que la Vierge Noire est une menace pour l'ordre russe, et en même temps qu'elle est le symbole de cette identité polonaise et de cette volonté pour la Pologne de survivre, les murs du sanctuaire sont détruits en 1815. C'est-à-dire que le sanctuaire finalement demeure soumis pratiquement donc à la libre entrée des troupes et notamment donc des troupes russes qui ne s'en privent pas. Il faudra attendre 1843 pour que le mur donc d'enceinte du sanctuaire soit reconstruit par à l'instigation du tsar Nicolas Ier donc de Russie, tout simplement pour montrer à l'opinion internationale donc la bienveillance en quelque sorte donc de la Russie à l'égard de la Pologne et puis sa tolérance à l'égard donc d'un sanctuaire catholique, la Russie qui est bien entendu orthodoxe et qui déjà dans cette première moitié du XIXe siècle tente de russifier la Pologne en favorisant l'orthodoxie au détriment du catholicisme. C'est dans la même période par exemple qu'un évêché orthodoxe est créé à Varsovie avec des biens d'ailleurs pris sur des biens catholiques alors qu'il n'y a pas un seul orthodoxe dans la région de Varsovie. il y a cette volonté effectivement de russifier et de, je dirais, de d'établir un contrôle en quelque sorte sur la religion catholique et bien entendu donc sur son sanctuaire de Yasnagora qui joue un rôle dans l'élaboration d'une conscience nationale polonaise et qui joue un rôle donc de symbole donc de cette liberté du pays, de cette identité donc de la Pologne. Les pèlerinages sont d'ailleurs interdits dans cette période où le sanctuaire donc est sous domination russe. Les pèlerinages sont donc interdits, pèlerinages collectifs. C'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité de se rendre individuellement donc à Yasnagora, mais les pèlerinages collectifs, notamment les pèlerinages des villes, sont interdits. Et les Russes d'ailleurs considèrent qu'il faut absolument limiter cette activité, puisque dans les textes à l'époque russe, on qualifie la Vierge de Yasnagora de principale révolutionnaire de Pologne, hein, pour bien montrer effectivement la menace en quelque sorte qu'elle représente pour l'ordre russe. On interdit les pèlerinages, c'est-à-dire ceux qui continuent de s'y rendre, d'ailleurs le font au risque et péril, c'est-à-dire que un certain nombre d'années, c'est pas régulier, mais les pèlerins sont détroussés par des parties de Cosaques hein, qui sont soi-disant chargés d'assurer l'ordre et qui en fait effectivement donc se payent sur l'habitant, ce qui fait qu'aller en pèlerinage à Sokova, à ce moment-là, c'est effectivement c'est quelque chose de relativement risqué. Les représailles s'accentuent après l'insurrection de 1863. Les Polonais n'ont jamais accepté ni le partage donc, du pays, ni surtout l'occupation donc par les Russes. Il faut dire que le régime autrichien au sud est nettement plus libéral et puis l'identité religieuse, l'Autriche étant catholique, fait effectivement qu'il n'y a pas ces mesures vexatoires donc, qui sont prises à l'égard dans la partie autrichienne du pays, ce qui fait que la situation est un petit peu moins dramatique. Deux insurrections donc, viennent marquer le 19e siècle. En 1830, les Polonais se révoltent une première fois. Ils sont évidemment relativement rapidement vaincus. Et en 1863, à nouveau, effectivement, on a une révolte. Révolte qui est le fait donc d'une partie de la petite noblesse polonaise, qu'on appelle la Slacha, et qui très rapidement donc est suivie des paysans qui protestent effectivement donc contre cet ordre et notamment contre ces injustices et ces injures qu'on fait que l'occupant fait subir régulièrement donc à la religion, au clergé et aux principaux sanctuaires. Alors les représailles, eh bien c'est d'abord la déportation d'une partie des moines donc de Yasnagora. Il faut dire que les insurgés de 1863 avaient fait peindre l'image de Notre-Dame de Chestokova sur leur drapeau. Alors, il est évident que pour les Russes, c'était un symbole un petit peu encombrant. On fait également fermer l'atelier de typographie qu'il y avait dans l'ancien du sanctuaire et qui permettait de diffuser un certain nombre de livres de piété et de spiritualité. On fait également fermer la pharmacie. Alors là aussi, c'est pratiquement symbolique, c'est une mesure vexatoire, tout simplement la pharmacie qui servait notamment aux soins des pèlerins. C'est une manière, là encore, donc, je dirais, injurieuse et un peu mesquine, effectivement, de faire sentir sa poigne. Les terres du monastère, plus concrètement, sont confisquées, ce qui fait que désormais les moines vivent exclusivement de la charité des pèlerins, donc et des populations environnantes du sanctuaire. Le cloître est même supprimé, c'est-à-dire que toute personne a le droit de pénétrer donc dans le cloître qui est démantelé. Et les soldats russes, dans toute cette période, effectivement, multiplient les humiliations, c'est-à-dire par exemple qu'il y a des. On rentre dans la chapelle de la Vierge pendant les offices, on bouscule un peu les moines, bon, on profère des obscénités dans l'enceinte du sanctuaire, enfin, il y a une espèce de pression permanente qui s'établit donc contre le sanctuaire, contre les moines. Et il faut attendre 1880, effectivement, pour que cette situation s'améliore un petit peu et que ce régime vexatoire soit aboli. La fin du 19e siècle voit grandir évidemment ce mouvement national, voit s'organiser ce mouvement national, c'est-à-dire que c'est dans cette période que commence à s'élaborer à l'étranger, chez des Polonais qui sont donc émigrés, notamment une partie de l'intelligentsia polonaise qui est émigrée à Paris, les premiers mouvements, et l'autre étant à Vienne, les premiers mouvements nationalistes du dehors, destinés justement à essayer de bâtir une Pologne indépendante lorsque les circonstances donc le permettront. En septembre 1909, intervient là encore un épisode un petit peu dramatique, c'est-à-dire le vol de deux couronnes de la Vierge de Yasnagora et d'une parure donc du tableau, une des grandes parures de cérémonie donc du tableau, est volée. C'est un sacrilège qui est évidemment très vivement ressenti. Les Russes d'ailleurs je dirais s'excuse, l'identité du coupable n'a jamais été véritablement révélée. Il semble vraisemblable, effectivement, que c'était le fait de pillards qui n'ont pas été repris, ou en tout cas, je dirais qui ont réussi donc à disperser leur butin. Les Russes d'ailleurs s'excusent un petit peu donc de cette humiliation et bon, sont un petit peu gênés tout simplement parce qu'ils ont bien conscience que de tels actes ne peuvent qu'alimenter le ressentiment donc des Polonais. L'Empire russe à ce moment-là, même s'il est en pleine politique, s'il continue sa politique de russification, on est après la révolution de 1905, est déjà un empire très ébranlé et n'a plus, je dirais, l'autorité suffisante en quelque sorte pour se payer le luxe d'une révolte en Pologne et d'avoir à réprimer donc une insurrection dans le pays. Le pape Saint-Pie-X d'ailleurs va offrir, qui est très touché de l'événement parce qu'il connaissait le sanctuaire, bon, il n'avait jamais été bien entendu, mais il connaissait le sanctuaire et Saint-Pie-X va offrir personnellement, sur sa cassette personnelle, deux autres parures au sanctuaire de Yasnagora. À l'heure actuelle, une partie de la parure de diamant, et je crois que c'est la parure de corail, ont été réalisées grâce au don de Saint-Pie-X. Et un nouveau couronnement donc intervient le 22 mai 1920. Alors, entre-temps, il s'est passé évidemment donc un certain nombre de choses. Bon, la Première Guerre mondiale est intervenue. La mobilisation est intervenue d'ailleurs sans grand trouble en Pologne. Un certain nombre de Polonais, effectivement, ont rejoint les armées russes. Mais les armées russes ayant été défaites très rapidement au début de la guerre par les armées allemandes, notamment la bataille de Tannenberg en septembre 1914, eh bien le front s'est stabilisé très en arrière des frontières de la Russie. C'est-à-dire que l'essentiel de l'actuelle Pologne se trouvait occupé par les Allemands, donc qui maintenaient un front donc très à l'est du pays. Alors les Allemands je dirais, ont hésité entre deux politiques. D'une part, utiliser cette Pologne occupée, évidemment, pour nourrir leurs armées. D'autre part, et pour la germaniser, parce que l'objectif entre 14 et 1918 était quand même aussi donc de s'emparer de territoires à l'est. Donc la première tentative, c'était la germanisation, ce qui évidemment n'était pas fait pour rassurer les Polonais ni pour les satisfaire. D'autant que si ça avait dû intervenir, c'est dans le cadre du royaume de Prusse que la Pologne aurait été incorporée, enfin elle aurait été incorporée au royaume de Prusse, qui était un État donc luthérien, hein, officiellement luthérien, ce qui ne ravissait évidemment pas donc les Polonais. Et puis, deuxième solution, ça a été d'utiliser le nationalisme polonais justement contre les Russes. D'utiliser le ressentiment anti-russe, le sentiment anti-russe très profond donc des Polonais, justement pour faciliter l'effort de guerre et si possible rallier, créer une espèce d'État autonome polonais sous tutelle allemande, justement qui servirait un petit peu de glacis, qui servirait un petit peu d'État tampon contre la Russie. Bon, là, sur le front de l'Est, vous savez que la révolution russe a fait que les Allemands n'ont pratiquement plus rencontré de résistance. Ils se sont emparés de territoires très importants. Ils sont avancés très profond donc, dans le pays, en Ukraine, dans les États baltes, pendant les régions baltes plus exactement. Mais la défaite sur le front ouest a fait que très progressivement, donc, ils ont été obligés de rétrocéder une bonne partie de ces territoires. Alors l'après-guerre est assez confuse dans ces régions, c'est-à-dire que la situation en novembre 1918 est assez confuse, c'est-à-dire qu'on a des Polonais qui veulent leur indépendance, qui ont des organisations armées, qui ont combattu notamment dans les rangs de l'armée autrichienne contre les Russes sous un dénommé Józef Piłsudski, hein, qui est général et qui représente une des grandes autorités. Il y avait un gouvernement en exil formé d'émigrés à Paris qui rentre très précipitamment donc à Varsovie. Et d'un autre côté, donc, il y a les troupes allemandes qui commencent à se retirer. Il y a le congrès de Versailles qui est chargé donc un petit peu d'élaborer des frontières dans l'est de l'Europe. Et puis il y a la menace, ben, il y a la menace révolutionnaire parce que en Russie c'est la pleine guerre civile et que entre 1917 et 1919 la lutte donc met aux prises les blancs et les rouges et que l'armée rouge progressivement donc est en train de gagner du terrain. Elle en gagne tellement que lorsque la Pologne est assurée. Alors les frontières à l'ouest de la Pologne sont définies par le traité de Versailles. Vous les avez sur la carte, hein, c'est-à-dire la Pologne. Donc au lendemain du traité de Versailles, vous avez la frontière ouest avec l'Allemagne qui est définie. Le problème, c'est de fixer une frontière à l'est, puisque la Russie est en pleine guerre civile et que l'autorité du traité de Versailles ne s'étend pas évidemment sur les territoires, ce qui deviendra l'URSS, ce qui n'est pas encore l'URSS, mais ce qui est le chaos. Ce qui est le chaos. Et l'armée polonaise, bon, les Polonais cherchent évidemment donc à agrandir le plus possible les territoires à l'est, en s'emparant y compris de territoires qui regroupent des Lituaniens et des Ukrainiens. Ce qui déclenche d'ailleurs en 1920 une offensive de l'armée rouge, très importante, sous la conduite de Trotsky, qui considère que la Pologne fait partie intégrante de l'espace russe, que d'ailleurs beaucoup de révolutionnaires dans l'Empire des Tsars étaient d'origine polonaise. Et bah, qu'il importe effectivement de réunir la Pologne donc à l'ensemble de ce qui deviendra l'URSS. C'est évidemment pas du goût du polonais. La guerre donc intervient entre les armées polonaises et l'armée rouge. Ça tourne d'ailleurs au désastre pour les armées polonaises. La France dépêche en dernier ressort donc une mission militaire commandée par le général Weygand. Et finalement, le 15 août 1920, alors que l'armée rouge est pratiquement dans les faubourgs de Varsovie, eh bien une contre-offensive polonaise est tout à fait victorieuse et les troupes de Pilsudski rejettent les troupes soviétiques pratiquement 300 km à l'est, pratiquement sur celle de la frontière donc, que vous avez, ce qui permettra donc d'assurer à la Pologne donc un territoire relativement vaste. On parlera de miracle de la Vistule. On parlera de miracle de la Vistule, c'est-à-dire que cette défaite, alors que l'armée rouge est 3 fois plus nombreuse que l'armée polonaise, que les choses paraissaient pratiquement courues d'avance, eh bien, cette victoire sera attribuée à l'intervention de la Vierge de Yasnagora, puisque pendant que Pilsudski rassemblait donc son armée donc de la région de Varsovie, tout l'épiscopat polonais et des dizaines de milliers de pèlerins, effectivement, donc, avaient fait le pèlerinage à Yasnagora, étaient en prière, effectivement, pour que les troupes remportent la victoire. Le sanctuaire va jouer évidemment un très très grand rôle spirituel dans la Pologne de l'entre-deux-guerres. Les foules vont affluer, puisque pour la première fois depuis 3 siècles, la Pologne donc, a recouvré la totalité de son indépendance, que les moyens de communication sont un petit peu plus aisés, que la Pologne semble enfin donc revenir à une situation plus normale. Et je vous l'ai dit, donc en 1920, donc on recouronne donc cette Vierge. Et chaque année se tiennent des grandes cérémonies lors du 26 août de la fête de Notre-Dame de Częstochowa qui rassemble des centaines de milliers de Polonais. Les tribulations de la Pologne, vous le savez, ne s'arrêtent pas là, puisqu'en 1939, la Pologne est attaquée. Elle est attaquée d'ailleurs sur deux fronts. Elle est attaquée par l'Allemagne hitlérienne qui franchit sans déclaration de guerre les frontières au petit matin du 1er septembre 1939, et elle est attaquée 3 semaines plus tard par les troupes de l'Union soviétique qui la prennent donc à revers et qui se partagent le pays. Cette campagne éclair, puisque la guerre n'a guère duré qu'un mois, à peine un mois, cette campagne éclair a fait des centaines de milliers de morts. Une bonne partie donc des villes de Pologne ont été détruites par l'aviation allemande et le sanctuaire donc de Yasnagora est lui aussi occupé par des troupes allemandes, bon, qui dans l'ensemble se comporteront assez bien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de déprédation à l'encontre du sanctuaire lui-même. Mais les Allemands interdisent évidemment donc les pèlerinages à Częstochowa, à tout déplacement de population. Et que vous savez que pendant cette guerre, quand même, que ce soit de la part donc des Allemands principalement, mais aussi donc des Russes, puisque les Allemands occupent le pays quand même pendant plus longtemps, la Pologne va perdre 6 millions d'habitants, soit à peu près donc un quart de la population, un quart de la population qui périt donc dans ce conflit mondial, évidemment de manière tout à fait horrible, d'une part du fait de la guerre, et puis surtout donc du fait ensuite des exactions commises par les nazis. Et ce qui n'empêchera pas d'ailleurs, pour ce qui est donc de Yasnagora, ce qui n'empêchera pas les moines de poursuivre leur action, notamment une action clandestine. Une action caritative donc auprès des populations, bon, une action qui se solde d'ailleurs par un certain nombre d'arrestations, de déportations. Le voyage pèlerinage que nous avons fait par le Częstochowa, mais pour cette période évidemment, même si pour l'unité de l'exposé on ne peut pas s'étendre, mais il ne faut pas oublier pour la même période la très grande figure aujourd'hui vénérée des Polonais, du père Maximilien Kolb, de Saint Maximilien Kolb, effectivement, qui meurt en 1941 à Auschwitz et qui sera un petit peu aussi le symbole de cette Pologne martyrisée à la fois par les nazis et puis à l'est, dans la partie est, jusqu'en 1941 et à partir de 1944, martyrisée aussi par les soviétiques. En 1945, en janvier 1945, puisque Chestokova, comme vous pouvez le constater, se situe quand même relativement à l'ouest du pays. Vous savez que l'armée rouge a commencé sa contre-offensive, est arrivée pratiquement en Pologne au printemps 1944, a franchi les frontières de la Pologne, de l'ancienne Pologne au printemps 1944, que Staline a laissé ses troupes l'arme au pied pendant 3 semaines, le temps que l'insurrection de Varsovie soit écrasée par les Allemands, ce qui s'est soldé quand même par 300 000 morts, de manière et de façon à ce que la soviétisation de la Pologne soit plus facile une fois que les dernières élites présentes aient été détruites. Donc en Chestokova n'est libérée, entre guillemets, qu'en janvier 1945, sans destruction. Sans destruction, tout simplement parce que les Allemands, qui à ce moment-là étaient en pleine débâcle, et pratiquement encerclés par deux groupes d'armées soviétiques, l'un venant donc du nord-est, l'autre venant du sud-est, eh bien les Allemands donc ont fui donc sans détruire le sanctuaire comme c'était prévu, puisque la consigne était donc avant donc de retraiter donc de tout faire sauter. Le pays donc est totalement libéré à partir donc de mars 1945, mais cette libération évidemment est au conditionnel, il faut la mettre tout à fait au conditionnel, puisqu'il est occupé par l'armée rouge, même si en théorie la Pologne redevient donc un État indépendant. L'histoire de Yasnagora évidemment donc ne s'arrête pas là, et on peut dire même que le sanctuaire retrouve une seconde genèse dans cette période où la Pologne donc est soumise aux joug soviétiques, puisqu'une nouvelle fois donc le sanctuaire devient le recours donc des Polonais, recours spirituel et en même temps recours national, les deux étant tout à fait indissociables, des Polonais, et se traduit effectivement par une recrudescence des pèlerinages. En septembre 1946, le pays est consacré au Cœur Immaculé de Marie. C'est le premier pays à être consacré officiellement au Cœur Immaculé de Marie par le cardinal primat Auguste Londe, en présence de 500 000 personnes. Le cardinal Londe se trouvait curieusement à Rome en septembre 1939, il était en visite ad limina. Il est resté à Rome quand la Pologne est attaquée, et ce qui lui a permis sans doute d'ailleurs de rester en vie durant la période, puisque les Allemands n'auraient pas manqué de le faire disparaître. Il faut quand même savoir que 4000 prêtres polonais sont morts durant la période d'occupation, ainsi que 18 évêques, dont l'évêque de Cracovie, l'archevêque de Cracovie. Le cardinal Londe, effectivement, qui dispose d'un prestige considérable, est farouchement anticommuniste et lutte autant qu'il le peut contre la mainmise qu'opère le Parti communiste très rapidement sur la vie politique du pays, puisque vous savez que théoriquement dans les accords de Yalta des élections libres étaient prévues, mais que les soviétiques ont, par des purges successives, par des interdictions, ont en fait pratiquement donc truqué ces élections, et puis ensuite ont forcé à la démission les ministres les plus modérés, sont emparés des postes clés, et fin 1946, on peut dire que le pays pratiquement donc est totalement et définitivement donc aux mains des communistes. En 1948, le cardinal Londe meurt, qui était un symbole de la résistance polonaise, parce que pendant son séjour à Rome, pendant la guerre, il avait notamment par des radiomessages sans cesse entretenu le courage, la ferveur donc des Polonais. Le cardinal Londe meurt et il est remplacé par quelqu'un qui est relativement connu, qui est le cardinal donc Stefan Wyszyński, qui est bientôt d'ailleurs emprisonné. Lui aussi, refusant la mainmise soviétique sur l'éducation, refusant l'enregistrement des prêtres, refusant donc toutes les brimades, notamment les demandes d'autorisation pour la construction d'églises, pour toute l'activité apostolique, eh bien le cardinal Wyszyński donc est très rapidement emprisonné par les autorités polonaises aux ordres de Moscou, et avant d'être emprisonné va composer d'ailleurs une prière personnelle à la Vierge de Yasnagora qui sera lue le 26 août 1956, qui est le 300e anniversaire donc du vœu de la consécration donc de la Pologne à Marie par le roi Jean Casimir, en présence d'un million de pèlerins. On peut dire que ce 26 août 1956 marque véritablement le début d'une révolte spirituelle de la Pologne. Le début des années 50 a été surtout marqué par la reconstruction matérielle du pays, et il est vrai que les difficultés matérielles étaient telles que les Polonais avaient difficilement la possibilité de repartir sur Yasna Gora. Et puis il ne faut pas oublier que pendant les premières années, la présence soviétique qui était très visible était aussi une présence qui était relativement brutale. Et en 1956, 1 million de pèlerins, donc malgré les interdictions officielles, se rassemblent à Yasna Gora donc, pour commémorer ce vœu du roi Jean Casimir et évidemment pour réclamer, même si ça n'est pas prononcé, pour réclamer de la Vierge la délivrance de l'oppression soviétique. Le cardinal Wyszyński sera d'ailleurs libéré le 26 octobre de la même année. On peut dire que c'est une coïncidence, on peut y voir une intervention encore de la Vierge, et ne sera plus emprisonné à partir de cette date, c'est-à-dire que les autorités polonaises, prenant conscience évidemment donc du retentissement et prenant conscience du poids donc de l'Église, s'aperçoivent qu'elles ne sont plus en mesure, là encore, de provoquer ce genre de réaction. Il faut savoir qu'en 1957, pour bien montrer que cette Vierge de Jasna Góra incarne cette identité polonaise, cette fidélité polonaise à sa foi et je dirais, cette conviction qu'un jour donc la Pologne retrouvera sa liberté, en 1957, une copie du tableau, bénie par le pape Pie XII, sera portée dans tout le pays de paroisse en paroisse. Ce pèlerinage prendra 25 ans. Pendant 25 ans, donc le tableau de Jasna Góra circulera donc de paroisse en paroisse. Mais évidemment, ça ne réjouit pas les autorités polonaises, les autorités communistes, mais la piété donc des Polonais donc est réchauffée, se fait plus fervente évidemment par cette espèce donc de pèlerinage incessant à travers donc le pays. Le 3 mai 1966, là encore, alors que la situation est relativement tendue sur le plan intérieur, c'est-à-dire qu'on commence à voir apparaître des troubles, des grèves qui dégénéreront et qui se traduiront en 1970 par le renversement de Gomulka et son remplacement par Guirec, c'est-à-dire qui se traduiront par une certaine libéralisation du régime. Il y aura un petit peu moins d'entraves, notamment pour l'Église, le régime sera un petit peu plus souple. En mai 66, donc, la Pologne est à nouveau consacrée donc, au service de Marie. Elle n'est pas consacrée à Marie, elle l'est depuis très longtemps. Elle est consacrée au service de Marie. Donc, chaque Polonais s'engage à servir Marie. Et il faut savoir notamment que le pape Paul VI prévoyait, donc, projetait de se rendre pour cette occasion donc, à Yasna Góra et qu'il en a été empêché donc, par les autorités communistes qui considéraient que sa venue, évidemment, aurait été un désaveu et puis un symbole donc beaucoup trop important donc du catholicisme polonais. Dans les années 70, Yasna Góra accueillera pratiquement chaque année de l'ordre de 1 à 2 millions de pèlerins, dont à peu près 300 000 faisant le pèlerinage à pied. Là encore, alors que théoriquement les pèlerinages sont interdits, c'est-à-dire que c'est en violation donc des lois polonaises, des règlements gouvernementaux que ce pèlerinage se poursuit. Et bien entendu, ces grands pèlerinages, notamment en été, au moment de la fête donc de Jasna Góra, Notre-Dame de Jasna Góra, traduisent pratiquement autant de protestations, évidemment, contre le régime. Alors la situation évolue en juin 79, puisque juin 79, c'est le premier voyage donc du pape actuel, de Jean-Paul II, en Pologne, donc de l'ancien archevêque de Cracovie, en Pologne. Voyage qui va réunir 3 millions de personnes. 3 millions de personnes qui se rassemblent pas très loin donc de Yasna Góra, où le pape évidemment donc se rend, et qui marque un tournant parce qu'à partir de ce moment-là, le pèlerinage sera véritablement le moyen privilégié de protestation. Moyen privilégié de protestation, 1980, il y a 4 millions de pèlerins qui se rendent dans l'année donc à Yasna Góra, et qui traduit aussi l'évolution politique, puisque 80, c'est la naissance donc de Solidarité, du syndicat Solidarité. Ce sont les grandes grèves donc de Gdansk sur la Baltique, et c'est, je dirais, le début des difficultés sérieuses pour pour le régime polonais. On constate aussi, et évidemment c'est une différence très nette par rapport à ce qui se passe dans d'autres pèlerinages mariaux et d'autres pèlerinages, je dirais, occidentaux, c'est que à Yasna Góra, à partir des années 70 et dans les années 80, se déroulent de grands pèlerinages professionnels, c'est-à-dire que, là encore, pour marquer le refus de l'organisation du syndicalisme officiel, pour marquer le refus des structures telles qu'elles sont imposées par le système communiste, chaque catégorie professionnelle, notamment par exemple les ouvriers, organise donc de grands pèlerinages donc à Yasnagora. Il y a des pèlerinages des métallurgistes, des pèlerinages des sidérurgistes, pèlerinages des mineurs, pèlerinages donc des également donc des ouvriers donc du textile très nombreux dans la région de Varsovie qui opèrent ces grands pèlerinages qui sont autant donc je dirais de manifestations à la fois de la piété bien entendu de la piété de tout ce peuple polonais mais en même temps donc des manifestations là encore de protestation par rapport donc à la structure du régime. Comment dire, cette action va s'amplifier effectivement au fil des années. Et vous savez qu'en 1988, donc, le pouvoir est à peu près obligé donc, de composer avec solidarité, après une période donc, d'état de siège à partir du 13 décembre 1981. Et le pape ira donc trois fois donc à Częstochowa, Jasnagora, et en 1989, la Pologne va retrouver donc une certaine liberté. Alors, j'en terminerai là, parce que c'est quelque chose qui est pratiquement quotidien, je dirais, même si nous sommes très loin, on pourrait presque s'y associer. Il faut savoir que depuis le 8 décembre 1954, qui marque donc l'emprisonnement donc du cardinal Wyszyński, eh bien, chaque jour à 21 h, les cloches du monastère de Jasnagora donc sonnent pour inviter donc les gens à la prière. Et il faut savoir que dans toute la Pologne, dans la plupart des foyers, il y a donc des images, des icônes effectivement de cette Vierge de Jasnagora, et que pratiquement donc chaque soir, au moins donc les fidèles catholiques, en union avec la Vierge de Jasnagora et donc en union, je dirais, avec la mère et la reine de la Pologne, eh bien se rassemblent pour prier devant cette image, donc en chantant notamment donc un des plus anciens hymnes mariaux polonais, puisque l'appel de Jasnagora, donc cet appel quotidien, donc est une des plus anciennes prières, est composée d'une des plus anciennes prières, effectivement à la Vierge, composée en Pologne. Et à chaque fois, notamment chaque soir, eh bien l'image miraculeuse de Notre-Dame de Jasnagora, dont nous avons pu constater, même si c'est très modestement, qu'elle était encore incroyablement vénérée par les Polonais, parce qu'il y a une foule absolument considérable, une ferveur absolument considérable, eh bien cette image est découverte chaque soir au chant donc de Marie, reine de Pologne, me voici devant toi, je veille. Voilà. Tout simplement par les cérémonies qui sont au lieu. C'est-à-dire qu'à Jasnagora, bon, on a beau célébrer la nouvelle messe, on la célèbre très dignement. Je crois que Madame Pourceau me confirmera. On célèbre devant l'image de Jasnagora, c'est-à-dire dos au peuple. On considère là encore que la Vierge est plus importante éventuellement que l'assistance, que l'assemblée. On communie sur les lèvres et à genoux pour la majorité donc des personnes. Il y a vraiment une vraie. On se confesse individuellement et je dirais massivement dans tout le cloître. Il y a véritablement encore les signes d'une vraie dévotion. Ceci étant, c'est vrai que le nombre des pèlerins, notamment de ceux qui font le grand pèlerinage donc à pied chaque année, a tendance à diminuer depuis 1989, c'est-à-dire qu'on est passé à peu près de 400 000 pèlerins qui faisaient donc le pèlerinage à pied à peu près 150 000 aujourd'hui. Tout simplement, évidemment, parce que le sanctuaire a perdu de je dirais son caractère national, en quelque sorte, et on va perdre son caractère national, mais ce pèlerinage qui servait un petit peu de support à la protestation politique a disparu. Et je pense pas que ce soit la ferveur individuelle des gens qui diminuait, mais effectivement l'aspect collectif de protestation qu'il a, est aujourd'hui évidemment tout à fait occulté, en quelque sorte. Mais ça reste évidemment donc un sanctuaire tout à fait impressionnant. Enfin, moi, c'est l'image que j'en ai retirée de cette ferveur, de cette piété accumulée, alors que ça reste relativement modeste. Hein. Ça n'a pas généré Yasnagora, ça n'a pas généré Lourdes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une agglomération commerciale qui s'est bâtie autour du sanctuaire. Hein. C'est toujours en plein champ, pratiquement. Il y a un abri des pèlerins, mais qui reste relativement modeste. Et puis sinon, quand on vient à Yasnagora, on se débrouille. On campe, on fait l'effort, on fait les sacrifices. Et ça vaut aussi bien pour des jeunes Polonais, on en a vu quelques-uns, que pour des grands-mères en fichu et toutes courbées, cassées par l'âge. Mais tout le monde, effectivement, fait l'effort donc de venir à Yasnagora en sachant que l'hébergement, ce n'est pas la priorité, que ce ne sera pas forcément donc, très, très, très confortable. Voilà. Si vous avez des questions, ah, s'il y a des. Parce que moi, je suis prêt à parler d'autre chose, hein, afin de. Alors, donc, on a fait un périple dans le sud de la Pologne. C'est vrai que, bon, pour ce qui est des grands sanctuaires, on a vu essentiellement Częstochowa. On a eu à la fois la chance et en même temps l'émotion d'aller jusqu'à Auschwitz, enfin, Auschwitz pour les Polonais, puisqu'on a vu donc la cellule où est mort donc Saint-Maximien Kolb. Je conseille d'ailleurs pas la visite, enfin moi c'est l'impression qui me reste, je conseille d'ailleurs pas la visite aux gens qui sont un peu trop sensibles. Moi j'ai fait la visite avec le cœur au bord des lèvres, je dois dire qu'il y a. Je dirais qu'on y sent le mal. Hein. C'est vrai que 50 ans après, le mal est présent. C'est presque, presque physique, c'est presque sensible, effectivement, hein, à cette présence. Alors, cette cellule, pour ce qui est de la cellule du père Kolb, évidemment, c'est très très émouvant. C'est très sordide, ça, c'est particulièrement horrible. Hein. On voit effectivement donc, les conditions, on imagine les conditions dans lesquelles il est mort, puisque enfin, je pense que tout le monde le sait, mais il a été condamné à mourir de faim. Avec 9 autres détenus en représailles pour une évasion de prisonniers. C'était la méthode qui était appliquée. Chaque prisonnier qui s'évadait donc devait le payer de la vie de 9 autres détenus condamnés donc à mourir de faim et de soif. Les circonstances de sa mort ont été très particulières puisque alors qu'habituellement évidemment c'était un spectacle tout à fait abominable. Hein. Enfin, les gens évidemment sous l'effet de la faim, la soif. Hurlait, enfin, les témoignages disent qu'effectivement le plus grand silence régnait, que pendant ces 9 jours, les compagnons, qui sont d'ailleurs morts les uns après les autres, on entendait chanter, priaient, chanter des cantiques, des hymnes à la Vierge, enfin il y avait véritablement une atmosphère absolument extraordinaire, à tel point d'ailleurs que les Allemands en étaient bouleversés, et pourtant bouleverser un Allemand à Auschwitz, c'était quand même quelque chose d'assez difficile à faire. Et le père Kolb est resté le dernier survivant de sa cellule. Il est mort donc au bout de 9 jours, comme il était toujours en vie. Tout simplement, on lui a injecté du formol dans le cœur donc, pour le faire périr. Certains détenus à l'époque, enfin, au moment où on essayait de réclamer son corps, malheureusement, il a été lui aussi brûlé dans les fours crématoires, ce qui fait évidemment qu'il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de relique, il ne reste strictement rien. La cellule où il est mort, donc dans le bunker 11, elle est aujourd'hui pratiquement en permanence fleurie. Hein. Il y a des témoignages de vénération, il y a des fleurs qui sont déposées très régulièrement. C'est vrai que ça n'a pas été transformé, je crois que c'est tout à fait heureux. Je dirais que ça n'a pas été. On n'a pas transformé ça en sanctuaire, quoi. C'est resté pratiquement tel que ça l'était au moment c'est nu. Et. Je dirais heureusement parce qu'on voit effectivement ce que ça pouvait être. Bon, je crois aujourd'hui que ça fait quand même partie, enfin, Maximilien Kolb fait effectivement partie là aussi de ses figures, évidemment, bon, c'est un saint canonisé, mais en même temps pour les Polonais, c'est quand même quelqu'un de précieux parce que c'est quand même un peu le symbole, le témoin du martyr de la Pologne. Je crois que derrière le saint, il y a aussi donc l'image pratiquement de tout Polonais. Nous avions un guide à Auschwitz, enfin celui qui nous a servi de guide en Pologne, donc pendant tout ce séjour, a eu d'ailleurs deux de ses oncles qui sont morts à Auschwitz, pris dans une rafle en quelque sorte. Et bon, c'est vrai qu'en gros, c'est presque la mémoire collective des Polonais qui est là. Au passage, j'en ai un mot, c'est presque polémique, mais c'est pas tant que ça. On a pu vérifier l'emplacement du Carmel, du fameux Carmel Auschwitz. Il est à l'extérieur du camp, déjà d'une. Il n'y a pas de croix qui surplombe le camp, c'est pas vrai, on la voit de nulle part. C'était effectivement l'ancien théâtre de ce qui était donc cette caserne de l'armée autrichienne. Et en plus, Auschwitz, le camp d'Auschwitz, comme vous le savez, donc est divisé en plusieurs parties. Et là où est situé, où était situé le Carmel, donc dans cet ancien théâtre, donc la caserne autrichienne, c'est le camp donc polonais, c'est-à-dire où ont été exécutés essentiellement, où sont morts essentiellement donc des Polonais, puisque le camp d'extermination donc des Juifs, celui de Birkenau, donc Breznica en polonais, est situé à 3 km, ça n'a rien à voir. Ce qui est d'ailleurs très curieux, c'est qu'à l'entrée du camp de Breznica, donc de Birkenau, devant les bâtiments, il y a une croix par contre dans l'enceinte du camp. Et là, apparemment, ça ne provoque pas de réaction. Donc ça montre bien quelque part que l'affaire elle est purement politique quoi. Et si on n'avait pas enfin bon si on n'avait pas voulu je dirais nier quelque part le martyr des Polonais parce que je crois effectivement ce qui est en cause c'est ça c'est que on se fiche à la limite des conditions réelles mais ce qui compte c'est qu'on ne dise pas que d'autres que les Juifs aient été martyrisés dans ce lieu. On peut quand même faire remarquer qu'à Birkenau, ont été aussi exterminés des Tziganes, qui eux étaient bel et bien chrétiens, et qu'on ne voit pas pourquoi, à la limite, il n'y aura pas de croix, y compris dans l'enceinte de Birkenau, dans la mesure où les 900 000 Tziganes qui ont disparu dans les camps d'extermination, on n'a pas fait les nazis, on n'a pas fait de différence, ils n'ont pas construit des camps spéciaux pour eux, ils les ont bien exterminés au même endroit. Voilà. Non, c'est un franciscain. C'est un franciscain, oui, c'est un franciscain. Il l'avait bâti, donc, puisque son œuvre était très considérable, centrée autour de la dévotion à l'Immaculée Conception, puisqu'il avait créé donc une revue qui s'appelait donc le Chevalier de l'Immaculée, qui avait une diffusion très large en Pologne, même au-delà de la Pologne. Le grand couvent qu'il avait fondé, donc Niepokalanos, était situé près de Varsovie. Il a été arrêté, non pas pour fait de résistance ou autre, mais tout simplement parce que effectivement, il faisait partie de ces gens qui, par leur autorité, par leur personnalité, par leur rayonnement, par leur œuvre, effectivement, menaçaient l'ordre nazi. Tout simplement, il s'agissait vraiment, le but était d'exterminer toutes les élites polonaises, de manière à, de façon à rendre une renaissance de la Pologne tout à fait impossible, ou en tout cas beaucoup plus difficile. Et le clergé, évidemment, à ce titre, était tout à fait visé. Et lui a été, d'ailleurs, il avait la prémonition de sa fin, puisqu'il avait, bon, il savait que la Sainte Vierge l'avait dit depuis qu'il était enfant, il lui avait proposé donc les deux couronnes, la couronne blanche, celle de la pureté, la couronne rouge, celle du martyr. Il avait dit, moi, je les veux toutes les deux. Il avait pris donc ces deux couronnes, il avait choisi d'embrasser ces deux couronnes. Bon, il savait qu'il mourrait martyr, mais il le savait aussi, puisqu'en fin d'année 40, après la guerre proprement dite, lorsque la Pologne donc était occupée par les nazis, il a demandé à tous ces moines, qui étaient très nombreux, qui étaient plus de 300 en Niepokalanos, il a demandé à ces moines de disperser. Hein, de disperser, parce qu'il savait très bien que très rapidement, donc, les nazis interviendraient. Il est resté avec simplement quelques moines, et il a été donc arrêté au printemps, enfin, à la fin de l'hiver, printemps 41, sans qu'il y ait de motif véritable, mais tout simplement, effectivement, parce qu'il constituait donc une menace et un danger. Il y avait d'ailleurs, on a vu, puisqu'il y a intérieur, donc maintenant Auschwitz, chacun des bâtiments, des anciens bâtiments où étaient les prisonniers, il y a un certain nombre de photos qui sont représentées, notamment parmi ces photos, il y a une photo où on voit un groupe de pères, de prêtres et de moines d'ailleurs, arrêtés par les Allemands, qui sont en train donc d'être conduits au camp d'Auschwitz. Alors je sais pas, je pense pas que le père Maximilien faisait partie, enfin, je pense pas qu'il figurait sur cette photo, mais enfin c'est vrai que c'était l'essentiel donc des moines, enfin des religieux plus exactement de Népokalanos, sont morts soit à Auschwitz effectivement, soit fusillés, soit dans les prisons donc allemandes à ce moment-là. Et c'était effectivement donc un ennemi qu'il importait donc de détruire. Pour ce qui est du reste du pèlerinage, on peut parler de la spiritualité. Alors, on a quand même vu un petit peu donc je dirais la foi polonaise, puisqu'on a eu l'occasion de passer un dimanche en Pologne. C'est quand même très impressionnant, hein. Nous qui sommes dans un pays très déchristianisé, c'est vrai quand même que ça change. Ça change de se retrouver dans un pays où, d'une part, on voit bien encore cette présence. Alors, on nous dit bien que ça s'affaiblit et tout. C'est vrai, sans doute. Mais c'est vrai que ça fait un drôle d'effet, puis je dirais que ça fait du bien. D'une part, de voir tous ces signes de catholicité, c'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'il y a des croix partout, des croix très bien entretenues, qui sont d'ailleurs, c'est très curieux parce que c'est pas du tout comme chez nous. Vous avez beaucoup de croix avec d'ailleurs une petite statuette de la Sainte Vierge qui est inclue dans le pilier, dans le central, où vous avez donc des simples Christ en bois, mais qui sont décorés. Alors il y a des fleurs partout, évidemment. Il y a des espèces de rubans aussi qui sont attachés et tout. Enfin, on voit qu'il y a quand même un entretien, qu'il y a quand même une présence, un souci. Et puis c'est très spectaculaire parce qu'un dimanche en Pologne, à 9 h du matin, on voit les gens non pas en train d'aller faire du jogging ou d'aller faire de la bicyclette ou d'aller faire leurs courses, mais on voit les gens qui sont endimanchés, et on voit qu'ils sont endimanchés en Pologne, ça se voit encore, et qui vont à la messe. Et qui vont à la messe et qui prennent le bus pour aller à la messe. Et notamment, bon, c'est qu'une vue évidemment très très partielle des choses, mais nous étions le dimanche matin donc à Wieliczka, à 15 km de Cracovie, qui est donc une petite ville. Eh bien, on a l'occasion donc de passer devant donc l'église, enfin une des églises, ou l'église d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en avait plusieurs, c'est la seule de Wieliczka, mais il y a quand même 7 messes le dimanche. Alors, pour trouver des paroisses françaises de taille moyenne qui aient 7 messes le dimanche, bon, je pense qu'il faut faire du chemin. Et puis surtout, il y avait des gens qui étaient dehors. C'est-à-dire que l'église, c'était l'heure de sans doute de la grand-messe, l'église était tellement pleine qu'il y avait effectivement donc, des gens qui étaient dehors, qui entendaient la messe donc depuis l'extérieur. Évidemment, là aussi, c'est des scènes qui ont tendance à se raréfier par chez nous. Et on voyait la même chose à Cracovie. On a eu la chance d'avoir la messe de Saint-Pie-V, la vraie, donc célébrée dans la plus grande église de Cracovie, l'église Notre-Dame, qui est une magnifique église gothique du XVe siècle, où il y a notamment, Il faudrait avoir des diapositives et photos ici. Il y a un retable, un polyptyque absolument superbe, pratiquement tout en argent, en or, enfin sculpté, et d'une pure merveille. Et dans cette grande église de Notre-Dame, là aussi, il doit y avoir une dizaine de messes le dimanche, à peu près. Et nous avons donc la chance d'avoir la messe dans une chapelle latérale dite par un père qui est un franciscain, vraisemblablement. Qui nous a dit d'ailleurs la messe avec une grande piété, avec une grande dévotion. C'est d'ailleurs très émouvant, parce que, comment dire, on voyait qu'il y avait, je crois qu'il était très heureux d'ailleurs, lui aussi, de célébrer dans ces circonstances. Et puis, en même temps, donc c'était déjà relativement tard le soir, il y avait une messe tardive, l'église est archicombe. L'église est archicombe quand nous sommes sortis. Il y a des expositions permanentes du Saint-Sacrement, il y a l'adoration permanente du Saint-Sacrement dans des chapelles. Donc dans les églises, et il y a du monde toute la journée. Alors, il y a du monde toute la journée. Bon, c'est clair qu'il y a, il y a un degré de piété, il y a encore un degré de pratique religieuse dont on n'a même plus idée, dont on n'a même plus idée de ce qu'il peut représenter. C'est-à-dire que dans les campagnes, c'est 80% de pratiquants. C'est-à-dire de gens qui vont effectivement à la messe tous les dimanches. Dans les villes, si la proportion est moindre, c'est à peu près de l'ordre de 50%. Les pratiquants donc réguliers dans les villes. Attention, pas des pratiquants comme nous on les définit chez nous, parce que vous savez qu'en sociologie religieuse, maintenant, quand on fait des grandes études, des grandes enquêtes, on définit comme pratiquant régulier celui qui va à la messe une fois par mois. Bon, en Pologne, c'est tous les dimanches, évidemment. Et on a eu aussi, enfin, c'est aussi un autre lieu de dévotion polonais, plus récent, mais apparemment qui est relativement important. Nous avons eu la chance de visiter, d'ailleurs, de manière impromptue, ce n'était pas prévu au départ. Le sanctuaire de Jésus miséricordieux à Cracovie, là où Sœur Faustine donc a eu des apparitions donc et qui est devenue là aussi un centre de dévotion relativement important. On a eu le bonheur d'entendre un petit peu l'histoire de Sœur Faustine, de ses apparitions, puis de la dévotion à Jésus miséricordieux, exposée dans une sœur qui avait d'abord une foi à transporter les montagnes, ce qui là aussi nous change agréablement. Et qui parlait un français absolument impeccable. Je dirais que la surprise était double, elle était d'autant plus bonne. Et j'avoue qu'on aurait bien besoin, même s'ils ne peuvent pas dire deux phrases sans prononcer le nom de notre pape Jean-Paul II, Jean-Paul, ce qui n'est pas toujours très très agréable au bout d'un moment, mais même s'ils ont ce petit travers-là, il est bien compréhensible, on leur pardonne bien volontiers. C'est vrai qu'on aurait bien besoin de quelques brigades de ces gens-là. Enfin, en tout cas, ça ferait sans doute un peu de s'armurer un peu dans le paysage, parce que eux sont pas contaminés par le modernisme. Eux croient encore aux miracles. Eux croient encore à la grâce, à la puissance des sacrements. Eux croient encore aux anges, aux chérubins. Ça se voit, ça s'entend, mais ça se voit pratiquement, ça se sent très nettement. Et donc c'est un sanctuaire qui reste relativement modeste, mais qui est en train de se développer, puisque le couvent est en pleine construction. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus assez de place pour abriter les novices. Dans le même ordre d'idées, et pour montrer quand même que je dirais le degré de décadence où nous sommes par rapport à la Pologne, il y a pour le seul diocèse de Cracovie qui compte à peu près donc 1 million donc de Polonais, il y a 300 séminaristes. Et il n'y en a pas plus parce qu'on ne peut pas les accueillir. Alors évidemment, la question c'est quelles formations vont à présent recevoir ces séminaristes, parce que justement les séminaires sont un des gros enjeux à l'heure actuelle, je dirais pour la fraction la plus moderniste du clergé en Pologne. C'est vrai que finalement le rideau de fer avait cette vertu de faire en sorte que d'une part les gens avaient une foi ferme parce qu'il fallait bien tenir, et puis d'autre part parce que les contacts avec l'Occident et avec Rome étaient quand même relativement rares. Et ça se sent. En Pologne, il viendrait à personne de célébrer, à aucun prêtre, l'idée d'aller célébrer la messe effectivement avec, comment, je ne sais même pas comment on dit, l'aube de Thésée, là, avec vous voyez, l'étoile incorporée, enfin bon, ce qui est absolument horrible. Tout le monde célèbre avec chasuble, avec tout ce qu'il faut, avec grand recueillement. On célèbre éventuellement sur le dos au peuple, c'est-à-dire quand on a un bel autel devant soi, ben, on ne s'occupe pas d'aller trouver une table à repasser pour éventuellement dire ce qui tient lieu de messe. Donc c'est vrai que là, il y a quand même un degré. Reste à savoir, effectivement, aujourd'hui, quelle formation vont avoir ces séminaristes, mais c'est sûr qu'il y a encore. Les sources de la vocation ne sont pas taries en Pologne, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les congrégations, les ordres masculins, que ce soit pour les congrégations féminines. Il y a encore incontestablement, effectivement, donc un vivier très important, une présence qui est très. Alors c'est vrai que ça a peut-être tendance à diminuer, mais ça reste encore à un niveau, je dis, dont nous, on n'a même plus l'idée. Ça, c'est clair. Et donc à Cracovie, donc au sanctuaire de Sœur Faustine, au couvent, nous y étions donc en semaine, il y avait la messe en semaine à 10h du matin, et il y avait au bas mot, il y avait 60 personnes pour une messe en pleine matinée. Hein. Et pas uniquement des personnes âgées, je dirais. Il y a des gens de tous âges qui sont présents. Donc là, c'est vrai qu'on sent quand même donc le décalage très net, enfin pour ce qui est de la foi, ce qui est de la piété. Et des églises en construction. On construit des églises. On ne pense pas les raser, les transformer en mosquée ou en temple ou bouddhique ou je ne sais quoi, ou en musée. On construit des églises. Ça, c'est visible. Entre Cracovie et je dirais que ça crève le cœur parce que bon, on ne peut pas dire que le paysage dans ces régions-là soit quelque chose de particulièrement splendide. On ne peut pas dire que la qualité de la. Enfin, je veux dire, quand on pense à toutes nos églises romanes gothiques qui se meurent et qu'on les voit construire en briques des édifices évidemment qui n'ont pas un charme très très particulier, on se dit que ça fait quand même pitié, quoi. Mais enfin bon, c'est la réalité. Mais c'est sûr qu'on voit la différence. On a traduit aussi, nous sommes allés dans les montagnes du sud de la Pologne, les Tatras, notamment dans la région de Zakopane. Alors, c'est très agréable parce qu'il y a un dépaysement, non seulement c'est vrai que les paysages sont très particuliers, mais il y a surtout un dépaysement dans le temps. On a l'impression de se retrouver pratiquement 40 ans, 50 ans en arrière, hein, quand vous voyez les gens qui travaillent encore tout à la main, qui fauchent, qui moissonnent encore à la main, avec les gerbes, avec les gens. Et puis en même temps, une impression de, vous voyez, d'un monde presque paisible, d'un monde qui est presque harmonieux. Vous voyez ces gens qui vivent sur des petits lopins de terre de 2 hectares encore, mais qui parviennent à vivre donc sur ces très modestes propriétés. Et c'est vrai que ça a quelque chose quand même de relativement touchant. Et c'est vrai qu'on... Et je dirais qu'on sent une atmosphère paisible, effectivement, qu'on a de plus en plus. Donc de... Il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de friche, il n'y a pas de jachère, on voit que c'est un monde qui vit encore, bon, à une heure qui n'est plus notre heure, mais qui vit effectivement avec une certaine unité. Je dirais qu'on a vraiment encore là une espèce de civilisation rurale qui, chez nous, pratiquement, donc a disparu. Et on a vu aussi le témoignage de cette fois à Zakopane, non pas dans le clergé séculier, mais chez les carmélites, hein, quelques-uns d'entre nous effectivement sont allés, qui nous ont accueillis très très gentiment, et où là, effectivement, si chez nous les congrégations religieuses font à qui mieux pour faire en sorte que leur chapelle soit la plus hideuse possible, la plus laide possible, la plus dépouillée, là on a effectivement quelque chose qui vient d'être créé, puisque le Carmel, je crois, a une dizaine d'années d'existence, et qui est absolument superbe. C'est très très beau, c'est très très bien entretenu, et puis on sent la foi tout à fait profonde, effectivement, de ces gens. Et bon, si on pense à notre malheureux Carmel de Rouen qui est en train de mourir effectivement à petit feu, quand on voit effectivement la piété, la genèse de ces carmélites, parce que là encore, les vocations sont nombreuses, elles sont tellement nombreuses qu'elles arrivent même à fonder, donc encore elles fondent de nouveaux carmels, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très émouvant, qui est très réconfortant. C'est vrai que ça. Alors c'est vrai que bon. Ils n'ont peut-être pas tout compris en matière de crise de l'Église, ils n'ont peut-être pas tout mal compris en matière doctrinale, mais d'une part, je crois que ça, c'est bien pardonnable, parce qu'ils n'avaient pas les moyens intellectuels forcément de le voir, que la réalité sociologique, je dirais, ne traduit pas cet état de crise. Et puis quand même, il y a la foi, on le sent. Alors je ne sais pas ce qu'il en restera dans 30 ans, si on continue cette évolution, si rien n'arrive d'ici là, mais c'est sûr que pour l'instant, quand même, il y a la foi, ça c'est clair, c'est visible, c'est transparent. Voilà. Si, je ne sais pas s'il y a d'autres, si vous voulez voir évoquer d'autres choses. Non, ça c'est, je crois que ça reste encore très très débattu. Alors là, pourquoi la Vierge de Yasnagora, c'est vrai qu'en plus que là c'est une peinture, hein, c'est même pas une statue, donc c'est une peinture, c'est un tableau peint. Vraisemblablement, ça vient du procédé donc de peinture à la cire. C'est-à-dire qu'on délayait donc la peinture dans de la cire fondue, hein, ce qu'on appelle la peinture aussi à l'encaustique, et qu'on peignait ensuite sur les tableaux pour assurer une espèce donc d'unité. Le bois s'imprégnait effectivement donc de cette peinture à la cire, et en même temps ça donnait un côté très satiné, très patiné effectivement donc à l'icône. Pourquoi cette teinte foncée? Non, ça, c'est très. Alors, j'imagine que celui qui un jour dira j'ai la solution, il fera un grand progrès, mais ça paraît douteux. D'autant que pour ce qui est donc l'image de Yasnagora, il y a cette tradition. Alors, on peut la rejeter, on peut la. C'est vrai que c'est peu probable. On sait à peu près sûrement que le tableau date vraisemblablement du 12e siècle. Enfin, les techniques de reproduction sont celles de la grande tradition des icônes byzantines, enfin bon, des écoles, tout ça. Mais il y a cette légende, effectivement, au sens premier du terme, cette tradition donc de ce tableau, donc peint miraculeusement. Ce qui est sûr, c'est que l'image est miraculeuse. Alors, noire ou blanche, ça c'est sûr, elle est miraculeuse. Sans savoir pourquoi, ça. Elle a été repeinte de toute façon. Le tableau d'origine il n'a pas disparu puisqu'il a été reconstitué. Le cadre et puis le bois, le support a été reconstitué. Mais l'image elle-même a été de toute façon grattée et elle a été repeinte non par-dessus. Un peintre indépendant.
On a tout à fait le respect de la restauration.
Non, de la restauration. Non, non. Il est probable tout simplement que là aussi le mélange de ces deux techniques picturales, de la peinture, parce qu'après tout, on n'a pas de témoignage de ce qu'était la Vierge de Yasnagora au XIIIe siècle, on n'a pas de photos, on n'a pas de films. Bon, c'est vrai que le mélange de la peinture à l'encaustique et de la peinture à la détrempe a pu produire aussi une oxydation qui a entraîné un noircissement. C'est souvent ce qui arrive le plus fréquemment, c'est-à-dire que c'est avec le temps. Mais bien sûr, comme on n'a pas de documents d'époque pour dire « je vous confirme que la statue était blanche à l'origine bon, », c'est bien difficile de dire. De cierges et tout, donc ça pouvait effectivement foncer, effectivement la teinte enfumée, voilà, effectivement, donc le tableau, le visage. C'est possible, enfin, oui, oui. Oui, c'est pas impossible, en tout cas ça a joué son rôle, c'est clair, hein, mais bon, je crois pas que pour l'instant on ait de réponse en la matière. Ce qui est quand même curieux, effectivement, c'est de voir qu'on a des vierges noires aussi bien en Orient qu'en Occident, par contre, ça, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi il y a cette tradition des vierges. Ah bah oui, mais donc à Vernet en Occident, il y a Yasnagora effectivement en Orient, ce qui est quand même curieux, c'est de voir ça, c'est qu'il y a quand même des vierges noires un petit peu partout en Europe, dans des régions pourtant, bon, chez nous c'est plutôt des statues, chez eux effectivement il y a très peu de statues, mais surtout des icônes, et malgré ça effectivement il y a cette tradition de représenter une vierge noire. Alors, pourquoi exactement, ça on n'en sait rien, mais c'est vrai que bon, c'est... Je dirais qu'il y a quand même une espèce d'héritage commun, quoi, en quelque sorte. Hein. Voilà. D'autres choses? N'hésitez pas, moi je suis comme les boulangeries maintenant en libre service. Hein, bon. Dans la mesure, dans la très modeste mesure de mes moyens, bon. Oui, j'ai pas parlé de Prague, j'aurais pu parler aussi un petit peu de Prague, mais c'est passé un peu plus, de l'enfant Jésus de Prague aussi. Puisque nous y sommes allés, on a eu la chance. Bon, alors là aussi, c'est pareil, j'ai pas fait l'aspect agence de tourisme, mais c'est vrai que. On a fait quand même un voyage absolument superbe. Il y a des choses qui sont connues. Prague, tout le monde sait que c'est une très belle ville. Et c'est vrai que c'est une très belle ville. Et je peux vous assurer, quand on découvre à 8h30 du matin Prague, depuis les hauteurs du Hradčín, donc du château des collines qui domine Prague, qu'on découvre Prague dans la brume avec toutes ses coupoles, ses églises, ses clochers, tout ça, c'est un spectacle absolument magnifique. On est vraiment plongé dans l'histoire, enfin, dans quelque chose de très profond. Donc nous sommes allés effectivement donc, à l'Enfant Jésus de Prague. À deux reprises, on y est allé donc le soir de notre arrivée. Donc c'est une très belle église baroque aussi. Bon, c'est du baroque, je dirais germano-autrichien, puisque Prague était une ville allemande. Hein. Elle a été la capitale des Luxembourg, la famille de Luxembourg, qui était donc roi de Bohême, et puis ensuite donc des Habsbourg, hein, pendant pratiquement jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Avant Vienne, donc c'est une ville qui est essentiellement allemande. Je veux dire, ça, on respire l'Allemagne, on respire le Danube, on respire l'Autriche effectivement à Vienne. Donc une très belle église et puis un très 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 beau sanctuaire de l'Enfant Jésus de Prague, là aussi qui est très très bien conservé, qui est absolument superbe dans ses vêtements. On l'a vu avec le vêtement bleu. Hein, il a plusieurs vêtements, nous on l'a vu avec le vêtement bleu. C'est très 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 beau. On célèbre encore la messe sur l'autel, encore la messe est célébrée sur l'autel de l'Enfant Jésus de Prague. Nous y sommes allés donc le soir, il y avait donc un office où apparemment on peut constater que la ferveur des Tchèques est nettement moins grande que la ferveur des Polonais, c'est-à-dire qu'il y avait 20 personnes à tout casser. Mais la messe était là encore célébrée donc dos au peuple, très dignement effectivement, par un prêtre qui était jeune. Bon. On a fait, je crois, chacun nos dévotions, puis on a eu chance donc d'y retourner le lendemain matin. Et le lendemain matin, il faut que je vous en raconte, enfin, certains d'entre vous connaissent l'anecdote, mais on a commencé par arriver, quand on est arrivé à 150 mètres de l'église d'Enfant Jésus de Prague, on a commencé par trouver un groupe de, en soutane sur le trottoir. On a commencé à se regarder en se disant quoi à se poser des questions, puis on s'est approché, puis on s'est aperçu, on ne savait pas trop au départ, puis qui parlait plutôt anglais, et on en est tombé nez à nez avec un groupe de séminaristes américains, donc de la fraternité, qui était donc en voyage en Europe, et qui s'apprêtait à célébrer donc, la messe donc, à l'hôtel de l'Enfant Jésus de Prague, qui tendra à prouver que d'une part, le clergé des grands sanctuaires tchèques a quand même meilleur esprit que le nôtre, ils sont peut-être un petit peu moins sectaires. Et puis surtout, ça a été une déception, ça nous a coupé l'appétit pour un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, parce que, bah, comme ce n'était pas prévu, on n'a pas pu rester. Mais à l'idée qu'on manquait la messe chantée en plus par les séminaristes de Winona à l'hôtel de l'Enfant Jésus de Prague, bon, ça a été une pénitence du voyage, une grosse pénitence du voyage, effectivement, parce que je crois que ça a été un souvenir assez inoubliable. C'est un... Comment dire... Ce qui est très curieux, c'est que, là encore, on voit qu'on sort d'une période de fermeture. Alors que c'est un sanctuaire quand même relativement fréquenté, on voit encore qu'il y a, relativement peu d'images, il y a relativement peu d'objets, il n'y a pas tout cet appareillage, je dirais, commercial qui sont caractéristiques des grands sanctuaires donc à l'ouest. Alors il y a une piété réelle, mais on n'a pas l'impression, d'ailleurs c'est très curieux parce qu'on n'a pas l'impression que les Tchèques et les Pragois notamment soient spécialement dévots à l'Enfant Jésus. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas cette dévotion-là dans leur privé, mais ça ne suscite pas de mouvement particulier. Il y avait notamment très peu de Tchèques, comme il s'en allait. En tout cas, apparemment, il n'y a pas de pèlerinage organisé, enfin régulier, alors qu'à Częstochowa, vous pouvez y aller n'importe quel jour de l'année, il y a des Polonais en pèlerinage à Częstochowa. Ça, c'est assez clair et net. À l'Enfant Jésus de Prague, c'est apparemment quelque chose qui est quand même beaucoup plus... qui est presque plus occidental, à la limite, que ça n'est Tchèque. C'est pas surprenant, outre mesure, si on voit un petit peu l'histoire de la Tchécoslovaquie, parce que d'une part, la déchristianisation y était quand même beaucoup plus poussée, depuis beaucoup plus longtemps. Quand même, pas oublier qu'entre dans l'entre-deux-guerres, la Tchécoslovaquie a un gouvernement hautement maçonnique, que ce soit Masaryk, que ce soit Beneš par la suite, étaient donc des francs-maçons de très haut rang, qui étaient très anticléricales. On peut dire qu'il y avait notamment, et comme la Tchécoslovaquie était déjà à l'époque sans doute un des États. Les plus alphabétisés de l'Europe centrale, tout l'enseignement était donné dans un sens qui était très anticlérical, et c'est vrai que la déchristianisation est beaucoup plus profonde. Et puis le régime a été, comme l'Église était moins puissante en Tchécoslovaquie qu'elle n'a été en Pologne, après 1945, la déchristianisation était beaucoup plus profonde parce que le régime a été beaucoup plus dur à l'égard donc, de l'Église. Bon, le cardinal Bérard, l'archevêque de Prague, a été arrêté. A été d'ailleurs passablement maltraité, a été accusé de toutes les pires crimes, de complicité avec le fascisme, tout ce qu'on veut, puis il a été réhabilité d'ailleurs dans les années en 67-68, d'ailleurs au moment vous savez, donc, de l'arrivée de Dubček au pouvoir, du printemps de Prague, y compris par les communistes, hein, c'est pas une réhabilitation une fois le communiste tombé, y compris les communistes ont reconnu que tout ça, ça avait été truqué. Et la religion était juste tolérée, c'est-à-dire que dans les églises, il y avait droit à une messe par dimanche. Bon, à la cathédrale de Prague, par exemple, il y avait l'archevêque de Prague n'avait le droit, le monseigneur Béran, et puis ensuite le cardinal Tomasek, n'avait le droit de célébrer il y avait une seule messe à la cathédrale de Prague. Bon, et c'était à peu près tout, et c'était très surveillé, les gens qui allaient à la messe étaient très contrôlés, enfin bon, il y avait une présence policière permanente. Beaucoup d'églises ont été détruites dans les villages. D'ailleurs, quand on traverse les villages tchèques, on ne voit pas d'églises. Il faut dire qu'il y a très peu de villages, il n'y a pratiquement plus de villages tchèques. Il y a comme les campagnes ont été totalement collectivisées, à la différence de la Pologne. Je vous signale d'ailleurs, n'emmenez pas un paysan français en Tchécoslovaquie parce qu'il meurt pour une crise cardiaque. C'est-à-dire, les campagnes, l'agriculture est dans un tel état que tout paysan qui se respecte, non, c'est pas possible, il en meurt de chagrin. Quand vous voyez autant d'espace à l'abandon, c'est invraisemblable. Donc tout a été collectivisé, beaucoup de villages ont été abandonnés, on a construit des HLM pour regrouper les salariés agricoles puisque tous les paysans ont été transformés en ouvriers agricoles, membres des fermes d'État. Donc au passage, on rasait le village, on rasait l'église et puis on en profitait pour ne pas la reconstruire, ce qui fait qu'il y a une déchristianisation qui est beaucoup plus profonde. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. La situation est sans doute très nettement différente en Slovaquie, où là, l'église, effectivement, était beaucoup plus présente, enfin, avait conservé un prestige beaucoup plus fort et où les transformations ont été beaucoup moins poussées que dans la partie tchèque. Donc l'enfant Jésus de Prague, il y a un très beau sanctuaire. Il y a de très beaux sanctuaires à Prague d'une manière générale. On a eu l'occasion de visiter aussi donc, le sanctuaire de la Lorette de Prague, qui est absolument superbe, qui est une reproduction donc, du sanctuaire de Lorette en Italie, absolument magnifique. Mais là encore, c'est vide. Hein. On voit des touristes. C'est-à-dire qu'on voit exactement comme à l'ouest, on y voit des touristes, on y voit des gens qui passent, mais non, on ne voit pas spécialement de traces de dévotion, de ferveur. Non, on a l'impression d'une situation qui est beaucoup plus proche de ce que nous connaissons. Pardon. Ah oui, effectivement, donc tout le tour du cloître de la Lorette de Prague, effectivement, vous avez des confessionnaux hein, qui sont présents et qui sont très beaux, qui sont absolument spectaculaires, mais qui sont inoccupés à la Lorette. Pardon. Quand on est arrivé, il y avait du monde. Moi, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas vu. Oui, il y avait du monde. À chez Sokova, il y avait du monde. Dans tout le cloître. À Lorette aussi. Alors, don d'acte, effectivement. Moi, je n'ai pas vu, je vais être en train de traînailler derrière, comme toujours. Mais bon. Voilà. On peut dire simplement un petit mot, oui, effectivement, puisqu'on est revenu par l'Autriche, par Vienne, bon, évidemment, là aussi, très belle capitale, je peux vous recommander le voyage. Très belle cathédrale, la cathédrale Saint-Étienne, donc de Vienne. Un accueil pas toujours très aimable. Simplement, oui, parce que c'est vrai qu'il y a tellement, là aussi, c'est tellement envahi de touristes qu'ils ont tendance à vouloir faire le tri, c'est-à-dire qu'à empêcher la circulation dans les offices, ils ferment le fond de la cathédrale pour empêcher quand il y a des offices. Ça se passe pas toujours bien, c'est pas toujours très aimable, enfin, c'est pas toujours fait de manière très très délicate. Alors, quand on baragouine 2-3 mots d'allemand, ça va un peu mieux parce que ça permet de répondre. Bon, mais c'est vrai que aussi c'est très beau, mais tout de suite on voit la différence. Je repensais, moi, quand j'étais à Saint-Étienne de Prague, on voyait la différence avec ce qui se passait en Pologne. Tout de suite, on retombe exactement pratiquement dans les travers que nous connaissons chez nous. C'est-à-dire qu'on voit un culte qui est dévalorisé. Quoi. Il y a plus respect, il y a plus cette dignité qu'on sent encore en Pologne. Il n'y a rien à faire. On sent que la révolution a été beaucoup plus loin. Quoi. Bon, ça n'empêche pas. C'est vrai que l'Église... Puis alors, gros problème en Autriche à l'heure actuelle, c'est que vous savez que les Autrichiens... Comme en Allemagne, ils sont soumis à ce qu'on appelle le Kirchensteuer, c'est-à-dire l'impôt d'église, c'est-à-dire qu'une part des impôts qui est reversée donc à l'église. Toute la religion est inscrite sur les. On s'inscrit donc sur les rôles d'imposition. Hein, votre confession est inscrite, si vous êtes catholique, si vous êtes protestant, si vous êtes juif, si vous voulez, c'est reversé à l'église. Et à l'heure actuelle, beaucoup apostasient, tout simplement, en déclarant sans religion pour ne pas payer l'impôt, ce qui équivaut en Autriche à une déclaration officielle d'apostasie. Et c'est de l'ordre de 500 000 personnes par an. C'est-à-dire qu'à ce train-là, dans 10 ans, le nombre de catholiques en Autriche devait être relativement réduit. En tout cas, à Vienne, c'est particulièrement spectaculaire. Et puis en plus, il y a des scandales parce que c'est vrai qu'une partie de la hiérarchie autrichienne était relativement conservatrice. On peut dire que c'est pratiquement en Autriche que Jean-Paul II avait fait les nominations d'évêques peut-être les plus conservateurs, notamment Monseigneur l'évêque de Feldkirch, l'évêque Monseigneur Krenn, l'évêque de St. Pölten, l'ancien auxiliaire de Vienne, même le cardinal archevêque de Vienne à l'heure actuelle. Et il y a de gros scandales. Il y a un gros scandale autour de l'archevêque de Vienne à propos d'une affaire de mœurs. Enfin bon, et en gros, les libéraux tapent, enfin, en ce moment, sont en train de faire une campagne démesurée pour essayer de récupérer les postes, enfin les évêchés, de faire démissionner les évêques les plus conservateurs. Et on sent véritablement que là, les Autrichiens, il y a tout un courant effectivement très progressiste qui en ce moment est à l'assaut. Ça, c'est très net.
Dès que
le pape Jean-Paul II,
en un homme qui est un peu trop conservateur, entre guillemets, ils le font démissionner. Le cardinal Groer donne sa démission, il va rentrer dans un monastère.
C'est de lui qu'il s'agissait, effectivement, mais lui, c'est un petit peu différent, puisqu'il y a donc cette fameuse affaire dont on ne sait rien, mais effectivement, qui pose effectivement de gros, enfin, qui crée de gros remous, effectivement, en ce moment, donc, dans le clergé autrichien. Ce qui est vrai, c'est que les églises sont très bien entretenues. C'est vrai que, notamment dans toute la partie tyrolienne, que ce soit les cathédrales, celles que nous avons visitées, c'est-à-dire donc Salzbourg, Salzinnsbruck, que ce soit donc les églises, c'est vrai qu'on... Bon, là aussi, c'est pareil, il y a des croix très fréquentes dans les campagnes, il y a des peintures, ce qui est très, très joli aussi, ce sont des peintures religieuses représentant la Vierge au dessin sur les murs des maisons aussi, hein, dans un style un peu baroque. Bon, c'est vrai qu'on sent qu'avec un il y a de la piété, il y a encore de la foi, notamment au Tyrol, mais ça se dégrade à très très grand pas, ça c'est clair. Hein. Et là encore, dans les églises... Alors quand même, il y a des différences, c'est-à-dire que dans les cathédrales tyroliennes, par exemple, à c'est notamment le cas à Innsbruck. Par exemple, il y a chapelet avant toutes les messes. Le nombre de cathédrales françaises où on trouvera le chapelet avant la messe, normalement, parce qu'il vaut mieux pas poser la question, parce que la réponse va être vite faite. Mais il y a quand même des sanctuaires qui sont très très bien entretenus, mais il n'y a pas une fréquentation, on n'a pas l'impression que... On ne sent pas en tout cas cette piété, cette dévotion, mais encore une fois, telle qu'on peut la ressentir en Pologne. Donc au total, c'était un très beau voyage, très beau pèlerinage, très spectaculaire, et puis très, très émouvant. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'on peut se conseiller à tout le monde, parce que je crois qu'il est important de voir ces pays avant qu'ils s'occidentalisent trop, parce que bon, on sent bien, et en même temps, je dirais... Il y a quand même un petit supplément d'âme à aller glaner. Il y a quand même une espèce de réconfort spirituel à y aller glaner, parce que ça fait du bien de voir que quand même les catholiques ne sont pas dans tous les pays une infime minorité, mais qu'il y a encore des endroits effectivement donc, où la pratique et puis où la foi sont pratiquement majoritaires. Non, je ne sais pas s'ils suivent le concile de façon très modérée. Je ne crois pas que ce soit délibéré. C'est simplement qu'ils en sont à un stade. Ils en sont au stade à peu près où nous, on devait en être dans les années 60, quoi. C'est à quelque chose près. C'est-à-dire que, sur le plan liturgique, c'est vrai que la dévastation est infiniment moins grande. Et puis, ils ont la foi, quoi. Le modernisme doctrinal n'est pas passé par là. C'est-à-dire que, quand on était prêtre, quand on a été ordonné prêtre en Pologne jusqu'en 89, il fallait avoir la foi parce qu'on savait que c'était se confronter à quelque chose qui n'était pas facile. Matériellement, ce n'était pas facile parce que les ressources étaient quand même plus limitées. Et puis, c'était effectivement se trouver confronté à toutes les tracasseries administratives, à tout un climat qui était quand même d'hostilité du pouvoir. Et on sent qu'il y a cette foi, c'est clair. Hein, la façon dont les... Oui, ça se sent. Donc là, c'est vrai qu'il y a un degré... Je ne dis pas que c'est des qui sont plus conservateurs dans l'âme, ou qu'ils ont mieux conscience des problèmes doctrinaux. Là encore, il faudrait y aller dans 30 ans. On verra peut-être ce qu'il en sera et ce qu'il en sera resté, si bon Dieu ne met pas bon ordre d'ici là. Mais pour l'instant, ils en sont à un stade nettement moins avancé, ça c'est clair. Ce qui est rassurant apparemment, c'est qu'il y a un certain nombre de... Enfin ça c'est donc M. Bourmeau qui le disait, puis ses contacts nous l'ont prouvé, c'est que apparemment il y a quand même un certain nombre de prêtres qui sont en contact avec la fraternité, et notamment de jeunes prêtres. C'est-à-dire qu'apparemment quand même y compris dans le jeune clergé, puisque le prêtre de la messe était un prêtre très très jeune, apparemment chez les jeunes prêtres, il y a une conscience plus grande apparemment des... Alors là encore, c'est une goutte d'eau au milieu d'un océan, mais il y a quand même une conscience donc des problèmes qui peuvent se poser, et d'une évolution à... Enfin, l'ouverture. C'est clair que... Oui. Oui, quelque chose allait bouger, oui, ça se délitait, oui. Tout à fait. Bien sûr.
À l'Occident, parce qu'ils disaient en fait, l'Occident avait été sur le monde. Et ils appréhendaient également cette ouverture aussi.
Religieuse, sûrement, oui, ça c'est vrai qu'ils étaient. Bien sûr. Non, c'est vrai que l'épiscopat est quand même, je pense, la figure du cardinal Guimp notamment, il est clair que. Il freinera des cas de fer autant qu'il le pourra, ça c'est sûr. Je dirais notamment par exemple sur le plan liturgique ou même sur le plan de la doctrine. On sent bien, on l'a vu à propos, c'est encore pareil pour l'affaire du Carmel d'Auschwitz, mais on voit bien que l'épiscopat polonais a fait tout ce qu'il a pu pour résister, qu'il a vraiment fallu que le pape s'y mette pour qu'il baisse un peu la tête, mais avec de très mauvais grés. On sent bien. Et c'est vrai qu'on. Je dirais à la fois, ils sont peut-être moins conscients des problèmes modernes, mais ils ont quand même l'expérience du communisme. Et ils doivent bien sentir quand même que quand on veut le culte de l'homme, pour eux, ça doit quelque part rappeler quelque chose. Je pense qu'effectivement, ils sont quand même un peu vaccinés contre les plus grosses. L'œcuménisme en Pologne, non. C'est pas parce que les sœurs, effectivement, les sœurs trouvent que quand des jeunes de Thésée viennent, qui chantent admirablement, qui chantent de très beaux chants, tout ça, donc j'ai une grimace, un petit sourire en coin, disant, bon, mais, bon, bien sûr, elles découvrent, c'est joli, puis tous ces jeunes qui viennent de l'Ouest, ont l'impression que finalement, tout n'est pas perdu, puis que, bon, c'est vrai que c'est, quelque part, pour eux, c'est réconfortant, c'est un côté heureux, c'est tout à fait légitime. Mais, qu'est-ce que vous voulez, quand cette brave sœur en parlait, elle a la foi. Je veux dire, si quelqu'un lui dit que les miracles, la Sainte Vierge, que ceci, que cela, bon, ben, elle va l'envoyer sur les roses, et puis c'est tout. Bon, et puis tant mieux. Bien sûr, bien sûr. De lutte, d'oppression, et puis de...
Nous, nous connaissons bien le recteur de la paroisse Coltès à
Paris.
Et quelques années, nous l'avions rencontré, il avait un problème avec le cardinal Luxiger. Et il nous avait dit, nous verrons qui gagnera, si c'est le juif polonais ou le catholique polonais. Et nous n'avions pas parié pour le juif polonais.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une, c'est vrai. Il y a une détermination, oui, il y a une conscience quand même un petit peu des. Tout à fait. Je vous dis, le gros enjeu maintenant, c'est les séminaires, quoi, parce que tout dépendra, et on sait très bien que justement, on fait tout à Rome, notamment pour mettre la main sur les séminaires polonais et les confier à des. Bon, parce que c'est là que se joue l'avenir, hein, c'est à partir du moment où il y a beaucoup de vocations. Mais enfin, c'est vrai que c'est. C'est notre atmosphère. Hein. Les prêtres polonais, la majorité des prêtres polonais, effectivement, portent la soutane. Ça respire, quand vous voyez dans les églises, quand vous voyez la façon dont ils célèbrent la messe, même la nouvelle messe, qu'est-ce que vous voulez, bon, bah, c'est autre chose. C'est autre chose. Bien sûr, bien sûr. Pour l'instant, bien sûr. C'est une sauvegarde pour l'instant, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Mais je dis, on sent vraiment le décalage, je dirais, au plan de la vie. Voilà. C'est pas pour rien non plus, effectivement, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment réconfortant quand même. Pour nous, c'est quand même un réconfort parce que c'est quelque chose de tellement inhabituel, quelque chose de presque tellement étrange aujourd'hui, que c'est vrai que je crois que c'est tout à fait précieux de le faire. Madame Pourceau, non, c'était presque une heure.
Il y a 4 ans.
4 ans.
Mais celui-ci, j'ai passé le temps à faire les citons parce que j'avais un peu forcé le périple, c'est vrai que c'était très fatigant, très complet, on essaie de temps à chaque endroit. Enfin, il pense le faire dans la protection.
Mais, enfin, ceux qui ont l'occasion d'aller dans ces pays, ne manquez pas. Et puis, alors, par exemple, Cracovie, hein, Cracovie qui est une ville magnifique, il faudrait me le dire, parce qu'on parle de Prague, on parle de Vienne, ainsi de suite, mais Cracovie, on a l'impression que c'est une banlieue industrielle, enfin, une ville bon, où il y a des HLM un peu crasseux, comme c'est le cas beaucoup dans les constructions neuves. Cracovie, c'est absolument super. C'est la seule ville de Pologne qui n'a pas été bombardée, bon, déjà. Et puis, ça a été l'ancienne capitale donc, du pays. C'est absolument superbe, c'est absolument magnifique. Il y a tout l'ensemble du château de la cathédrale qui est très, très beau. Il y a le tombeau de Saint Adalbert qui est un des deux patrons de la Pologne, qui est très très bien là aussi, qui est absolument magnifique. C'est une ville qui est très très belle. Donc.